Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme en ce vendredi 28 mai. Alors aujourd'hui, restez bien à l'écoute, car dans quelques minutes, je reçois en compagnie de Stéphanie, Monsieur Jonathan Mathil, qui est psychologue en énergie thérapeute spécialisé dans les expériences spirituelles, notamment dans les EMI, qui signifie expérience de mort imminente. Et puis, eh bien, j'ai aussi la chance d'avoir un expérienceur, comme on dit, c'est-à-dire une personne qui a vécu ce type d'événement. Donc, c'est tout de suite dans quelques minutes sur Radio Tonique. Bien sûr, Aretha Franklin qui nous parlait de respect. Et là, bien, je suis en compagnie de Stéphanie qui va tout de suite nous dire bonjour. Bonjour Stéphanie. Alors, je ouvre le micro. Voilà, bonjour. Stéphanie, tu m'entends?
Oui. Oui, bonjour Dominique. Bonjour. Bonjour à tous.
Alors, on a de la chance d'être aussi avec Jonathan Mathil, qui est psychologue en énergie, thérapeute spécialisé dans les expériences spirituelles. Et c'est un peu de ça qu'on va parler plus particulièrement ce matin, puisqu'on va parler des EMI, c'est-à-dire expérience de mort imminente. Et pour ça, on a aussi une autre personne qui est avec nous, c'est Yvan Decarly, qui lui est, comme l'on dit dans le langage médical, je suppose, expérienceur. Voilà. Donc, bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Voilà, mais approchez-vous bien du micro, tout le monde ne vous entend pas. Voilà. Bon, alors on va commencer avec vous, Jonathan. Vous êtes donc psychologue, comme je le disais, thérapeute spécialisé dans les expériences spirituelles et encore dans plein d'autres choses, bien sûr. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre parcours, s'il vous plaît ?
Oui. Alors, moi, je suis psychologue diplômé en 2017 de l'Université de Genève. Et en fait, durant mon parcours universitaire, j'ai eu l'occasion de faire une étude scientifique pour mon master qui était dédiée aux conséquences psychologiques des expériences de mort imminente et de leur effet sur l'anxiété et la peur de la mort. Donc c'était une étude qui a duré depuis 2014 jusqu'à 2017. C'était oui. assez conséquent.
Oui.
J'ai eu en tout 29 participants qui avaient vécu cette expérience de mort imminente. Mm-hmm. Je les amenais en laboratoire et je leur faisais certains tests pour oui. mesurer justement leur peur de la mort et leur anxiété. Mm-hmm. Et voilà, donc c'est à cette occasion que moi j'ai eu l'occasion de me former et d'apprendre sur eux, d'apprendre aussi quelles étaient des conséquences plus avancées des expériences de mort imminente, par exemple, sur leur perception qu'ils ont développée après coup. Donc voilà quel est mon parcours. Et voilà, après 2017, je suis parti quelque temps aux Seychelles, qui est mon deuxième pays, mmh. et je suis revenu pendant la pandémie en Suisse, où j'ai ouvert mon cabinet qui est à Puy aujourd'hui.
D'accord, d'accord. Alors c'est vrai que la Near Death Experience, c'est donc NDE, c'est ça dont on parlait. En fait, c'est arrivé un petit peu. On a commencé à en parler, je pense. C'était en Amérique, voilà. Et qu'il y avait aussi plusieurs scientifiques qui ont fait des expériences là-dessus, mais ça date de nombreuses
oui.
années. Hein.
Oui, oui, j'ai vu.
Mais ce n'était pas pris très au sérieux jusqu'à maintenant, mais il me semble que maintenant, on en parle de plus en plus. Voilà, disons que c'est plus accepté. Avant, on pensait... Alors justement, moi j'ai une question. Certains très pragmatiques considèrent l'EMI comme une hallucination mystique mm-hmm. ou bien qui serait due peut-être aux médicaments que les personnes avant avaient dû prendre. Comment déterminer que c'est vraiment une expérience de mort imminente ?
Oui, ben, c'est vrai que les expériences de mort imminente depuis les années 70, c'est à partir de là qu'on en a beaucoup parlé, elles étaient prises au début pour un domaine du paranormal, des parasciences. Et au fur et à mesure que des études s'accumulent au fil du temps, dont des études très sérieuses, dont celle de Pien van Lommel l'an 2000. Et
oui,
2001.
Hein, il est hollandais, je crois.
Voilà, donc mmh. là, dès que son étude est sortie, elle est sortie dans une revue prestigieuse qui était le Lancet,
oui.
Là, on est tombé dans le domaine des sciences. C'est juste pour montrer que parfois, on peut être dans le domaine des parasciences et tout d'un coup, la psychiatrie change et on tombe dans le domaine des sciences parce mmh. qu'on reconnaît le phénomène comme étant réel, mmh. En tout cas subjectivement réel. Et voilà, donc c'est intéressant de voir cette évolution. Maintenant, comment fait-on pour déterminer
que les personnes ont vraiment vécu ce genre d'expérience?
Oui, oui. Alors, il faut savoir que le souvenir des NDE est complètement différent, par exemple, d'un souvenir de rêve. Le souvenir de rêve est souvent... Déjà, on ne s'en souvient pas forcément. Et mmh. puis, le rêve, il est assez vaste dans son contenu. Alors que l'expérience de mort imminente, il a un contenu assez caractéristique, phénoménologique. Son souvenir est même plus réel que la réalité elle-même. C'est les études qui le montrent. Mmh. Par exemple, une personne qui a vécu une expérience de mort imminente il y a 30 ans, le souvenir de cette expérience sera autant réel que si elle l'aurait vécu hier. Mmh. Autre chose, une expérience de mort imminente, quand elle est vécue avec une telle réalité, une telle vivacité, je veux dire, son degré de réalité est bien plus supérieur que le degré de réalité dans lequel, juste là, entre nous, nous mmh. sommes, mmh. il est inférieur. Mmh. Donc pour eux, en plus, c'est très perturbant de revenir après coup dans leur corps, dans notre réalité commune, mmh. parce que ils l'estiment comme inférieur de la réalité qu'ils ont vécue de l'autre côté.
Oui, il paraît que c'est tellement beau. Et souvent, les gens disent un peu la même chose. Les mêmes phénomènes leur arrivent. En fait, c'est ça qui détermine aussi, n'est-ce pas, cette expérience.
Oui, oui. Alors, c'est vrai qu'il y a les contenus sont systématiquement les mêmes. On parle souvent de... Par exemple, une des premières étapes, c'est le sentiment de ne plus sentir de douleur au moment où ces personnes sont en danger pour la vie.
Être en-dessus de son corps.
D'être au-dessus de leur corps, de traverser, par exemple, un certain passage. D'ailleurs, ce passage, il peut varier d'une culture à l'autre. En Europe, on parle souvent de tunnel, mais dans les pays arabes, on peut parler, ils parlent plus souvent de portes qu'ils ouvrent, ou bien dans les pays asiatiques, ils parlent de rivières qu'ils traversent. Mmh. Donc il y a certaines notions qui reviennent, et la culture par derrière, elle colore cette expérience, ce contenu. Même les religions, je veux dire, il y a aussi une autre étape dans l'expérience de mort imminente, qui est la rencontre avec un être. Ça peut être un être de lumière, ça peut être
un membre
de la famille, ça peut aussi être un être religieux. Donc là, ça dépend aussi de quelle religion nous sommes. Peut-être que ça colore un peu cette expérience.
D'accord. Bon, Yvan, c'est ça, n'est-ce pas ?
C'est ça. Oui.
Voilà, Yvan Descarlis, vous, on va passer directement de la théorie à la pratique, si je peux me permettre.
Voilà.
Aussi.
Ça va bien se passer.
Oui.
Mettez-vous un peu plus proche du micro. Voilà. Donc vous êtes, comme on dit, c'est ce que j'ai vu, on appelle ça un expérienceur. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec les influenceurs qu'on trouve maintenant partout sur Facebook et compagnie. Vous êtes un expérienceur dans le sens que vous, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, vous me le direz, avez vécu ce genre d'expérience. C'était dans quelle situation, Yvan ? Comment est-ce que c'est arrivé ? Qu'est-ce que vous avez vécu ? Racontez-nous tout.
En deux mots, c'était une période assez perturbée, séparation, divorce, etc. Là-dessus, en pleine période d'examen, donc beaucoup de stress et l'ignorance en fait d'une hypertension cachée avec laquelle je vivais depuis de nombreuses années, jusqu'au moment où le corps a dit stop.
Oui.
Et je me suis retrouvé assis comme ça sur une chaise, comme je le suis là aujourd'hui devant vous, avec le sentiment d'un poignard qui me traversait complètement le corps.
C'était une sorte d'ABC, en fait.
Oui.
On peut dire.
Oui, si on veut, quoi. Crise cardiaque, le cœur est parti en crampe, hein, si on veut. Donc, cette douleur qui est juste horrible, qui vous traverse de part en part, et puis, gentiment, perdre le sentiment auditif, le visuel, tout commence à se troubler jusqu'au moment où on se rend compte qu'il se passe quelque chose de très grave. Heureusement, j'étais entouré, donc immédiatement intervention, ambulance, SMUR.
Excusez-moi, je veux juste intervenir là-dessus. Vous voyez à ce moment-là les gens qui vous entouraient ?
Ils disparaissent, en fait, gentiment. Tout devient trouble.
Ouais.
Les distances sont plus perceptibles normalement.
D'accord.
Le son se décale aussi par rapport à l'image. Les gens vous parlent, mais vous avez un décalage qui s'installe entre...
C'est comme si vous partez gentiment.
Oui.
Cette sensation.
Oui. Ouais. Alors, la chance que j'ai eue, comme je disais, les secours étaient très très rapidement ici, sur place. Enfin, donc, il y a eu ce premier moment qui était déjà limite. Puis une fois accouché dans l'ambulance, on pensait être stabilisé. Là, le départ. Et le départ, c'est tout d'un coup, cette dissociation du corps et de l'esprit. Je sentais plus rien de mon corps. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y avait plus qu'un bout de cerveau qui fonctionnait, de peser plus rien. Cette douleur qui a intégralement disparu en l'espace de quelques secondes.
Est-ce que vous perceviez en dessus de votre corps ou pas ?
Alors je me voyais pas, mais je sentais en fait que dans la dissociation, comme si l'âme sort du corps et s'élève au-dessus.
Oui.
À ce moment-là, plus qu'une façon de voir, une espèce de voile blanc, de lumière aveuglante, mais paradoxalement très douce. Et deux voix. La voix de l'infirmière qui rappelle « Ne partez pas, restez avec nous ». Et là, on sent vraiment l'émotion du moment. Là, on a encore conscience qu'il se passe quelque chose de dramatique. Et une autre voix qui me disait « Reste, tes enfants. Il faut que tu restes. »
D'accord.
Ça, c'est une voix que vous aviez dans votre tête. Enfin, que vous sentiez quelque part, quoi, qui était là.
Je ne sais pas qui me parlait
à ce
moment-là.
Il y a quelqu'un qui vous parlait.
Ouais. Mm-hmm.
Ok.
Est-ce que vous avez vécu un tunnel ou quelque chose, ou non, juste une grande clarté?
Alors, cet effet de tunnel, oui, mais paradoxalement, il n'est pas sombre, comme on peut imaginer un tunnel, comme on...
Mm-hmm. Oui, exactement, c'est ce
voilà.
qu'on imagine.
En fait, ce tunnel, il est de lumière, et plus on va vers le fond du tunnel, en fait, plus la lumière est claire.
D'accord. Il paraît qu'il y a des gens qui vivent ça. La plupart disent je me suis retrouvée dans ce amas de lumière, et là, tout à coup, plus de douleur et un amour inconditionnel. Un amour inconditionnel, une légèreté.
Vous n'avez pas trop envie de revenir. Voilà,
vous n'avez pas envie de voir. Je rejoins ce que disait Jonathan, le fait qu'après on revienne dans notre corps, que ces personnes reviennent, elles disent finalement j'ai de nouveau mal, je me sens à l'étroit, c'est pas bien, c'est pas génial. C'est ça que je pense qui est perturbant. Est-ce que vous avez ressenti ça?
Complètement. C'était quelque part un bonheur, ce moment. Un immense bonheur. Mm-hmm. Parce que l'esprit, le corps, quand on revient, il est différent, il vibre différemment.
D'accord.
On réintègre son corps, c'est comme si on avait fait un reset.
Donc vous avez eu vous êtes entré entre guillemets dans la lumière, c'est quelque chose comme ça que vous avez eu?
Oui.
Et après, vous êtes retourné dans votre corps directement ou...
Alors la notion du temps, je ne l'ai pas, mais visiblement ça a mis...
Vous n'avez pas rencontré d'autres, vous avez pas, à part la voix que vous avez entendue, vous n'avez pas eu des perceptions visuelles peut-être de personnes qui étaient déjà, qui étaient décédées et qui venaient à votre rencontre, quelque chose comme ça?
Oui, plein de présences, énormément de présences. Je ne peux pas dire telle personne parce que je pense que c'est des gens que je ne connaissais pas. Mais...
Des expériences bienveillantes, c'est ça?
Oui.
Est-ce que les personnes, vous les deviniez, elles étaient floutées ou vous les voyez bien? Je vais y arriver.
C'était très flou.
Ouais.
C'est un petit peu l'image qu'on peut se faire de l'ange, mais qui est un peu dans le brouillard autour de soi.
Okay. Mais ça effraie pas, c'était pas effrayant?
Absolument pas, non. Ouais. Au contraire. Ouais. Au contraire.
Une sensation de waouh, de bien-être.
Légèreté.
Carrément. Mmh.
Okay. Si vous arriveriez à les décrire, ils étaient... Si vous n'arrivez pas, ce n'est pas grave.
C'est difficile à mettre des mots là-dessus, parce que c'est des sensations qui sont tellement fortes que les mots ne viennent pas nécessairement.
Oui. Et là, j'ai envie de répondre, c'est que vous n'êtes pas le seul à manquer de mots quand il faut décrire cette expérience. Ça arrive la grande majorité du temps. Les gens qui vivent ces expériences sont tellement... on est tellement dans un autre ordre de réalité qu'il n'y a pas de mots qu'on peut associer à toutes ces expériences. Du coup, ces personnes, elles se retrouvent après à revenir entre nous, comme ici à table, là. Nous essayons de discuter, et c'est vrai qu'il y a un manque de ce mot, et c'est aussi la raison pour laquelle certaines personnes ont besoin peut-être de s'exprimer plus par de l'art.
Mm-hmm.
Après coup, il y a aussi des conséquences psychologiques de ces expériences. Ces personnes deviennent plus artistiques, expriment tout ce qu'elles ont ressenti.
Oui. J'ai vu un documentaire là-dessus, justement, hier, une vidéo que Stéphanie m'a envoyée.
Très intéressant.
Oui, et on voyait justement Monsieur Lucas, il s'appelait, je crois, qui, lui, justement, a eu un AVC et qui, après, il a été foudroyé par la foudre. Dans son chalet à la montagne, et on l'a tout de suite pris à l'hôpital, et quand il est ressorti, il avait déjà, effectivement, je pense que ça change une personne, on en parlera avec vous après, Yvan, mais il s'est mis dans l'art, il a commencé effectivement à exprimer ce qu'il avait ressenti à travers la peinture ou la soudure. Je sais pas ce qu'il faisait là, n'est-ce pas, Stéphanie?
Je m'en souviens plus.
Oui, c'était une sorte de peinture soudure. Enfin, c'était assez beau ce qu'il faisait d'ailleurs. Vous avez raison, docteur.
Psychologue.
Oui, mais c'est docteur quand même quelque part.
Non.
L'art, c'est une façon d'exprimer avec son cœur, avec son inconscient, et pas d'aller dans le mental, quoi.
Donc,
c'est plus facile peut-être pour eux justement d'exprimer leur ressenti.
Il y a ce manque de mots en fait qui effectivement perturbe parce qu'on y a une peine à matérialiser en fait, parce qu'on est passé du côté immatériel. Je pense, quand on vit cette expérience-là. Donc, prendre un repère et expliquer quelque chose à quelqu'un, on ne peut pas lui le démontrer.
Ben oui.
Oui. Ouais.
Voilà, l'absence de mots, je crois qu'elle vient de là. C'est qu'on est dans l'immatériel. Donc...
Et vous pensez que ça a duré combien de minutes? Est-ce qu'on vous a dit à peu près? Est-ce que vous êtes resté inanimé comme ça dans cet autre monde pendant 10 minutes, pendant 20 minutes ou c'était juste quelques secondes? Est-ce qu'on vous a expliqué un peu?
Non, je crois que ça a duré plus ou moins 7 minutes, ce moment en fait.
Donc en fait, vous avez décidé de revenir entre guillemets parce que vous avez entendu cette voix qui disait « et tes enfants », c'est ça?
Oui. Et puis cette voix d'infirmière qui, je sentais un peu sa panique malgré tout, malgré que c'est des gens qui ont été très professionnels et la preuve, je suis là. On sent quand même qu'ils sont là, ils veulent pas vous laisser partir.
Vous avez été pendant 7 minutes en arrêt cardiaque?
Non, dans l'état, dont l'arrêt cardiaque, il a duré moins que ça. Hein.
D'accord.
Mais jusqu'à ce que je reprenne possession, on va dire, que je réintègre mon corps et que les choses reviennent un petit peu sur le chemin de la normale, ça a duré environ 7 minutes.
Oui.
Donc ça, c'est l'ensemble, en fait, du...
Oui. Il faut savoir aussi que parmi les survivants d'arrêt cardiaque, environ 10 à 15% des survivants d'arrêt cardiaque disent avoir vécu une expérience de mort imminente. Hein. Donc c'est pas à minimiser. Au niveau population générale, on est environ à 5% de la population qui disent avoir vécu une expérience de mort imminente. Mmh. Il faut aussi comprendre que l'expérience de mort imminente n'est pas forcément toujours vécue lors d'un arrêt cardiaque, donc il peut être aussi vécue lors d'un coma, elle peut être vécue lors d'un danger pour la vie. Par exemple, tous les premiers témoignages d'expérience de mort imminente, ils datent déjà de 1890, hein. C'était même en Suisse qu'on les avait répertoriés par des alpinistes suisses. On peut aussi vivre une expérience de mort imminente qu'on appelle NDE-like, hein, donc jargon scientifique, suite à une méditation intense, ou même dans un sommeil.
Quand on sort, parce qu'il y a des gens, ils arrivent, moi ça me ferait un peu peur, mais enfin
ils
arrivent.
Ils font des sorties de corps.
Des sorties de corps. Moi j'aurais peur de pouvoir me réintégrer, mais est-ce que c'est un peu la même chose quand on sort de son corps, qu'on se voit depuis, on peut partir voyager ailleurs? Est-ce que c'est un peu les mêmes symptômes qu'une mort imminente? Enfin, je veux dire,
je voulais poser la question justement, la différence entre
les deux. Déjà, j'ai envie de vous dire, je parlerai pas de symptômes. Je pense parce que c'est pas une maladie.
Non.
Donc c'est une caractéristique particulière. Oui, la sortie de corps est une phase possible de l'expérience de mort imminente. Est-ce qu'on peut l'associer à la NDE? Oui, bien sûr, on peut parce que lors d'une expérience de mort imminente, dans un tiers du temps, il y a justement cette phase de sortie de corps où la personne peut observer justement son environnement ou bien peut-être même ce qui se passe dans la pièce d'à côté. Elle peut voir, par exemple, j'ai eu des témoignages de personnes qui disaient entendre son papa parler avec le médecin pendant l'opération. Il entendait un certain discours qu'il a pu rapporter après l'expérience de mort imminente, juste pour voir s'il n'avait pas halluciné.
Oui.
Donc c'était déjà une preuve pour lui qu'il n'avait pas halluciné.
Oui, c'était pas un rêve, c'était vraiment quelque chose de concret, entre guillemets, n'est-ce pas, Yvan?
Oui, et je veux rebondir sur le fait qu'on parlait de méditation, où on peut vivre ça. Il y a une vingtaine d'années, j'ai été voir une personne qui travaille sur les énergies et autres. Je suis parti en auto-hypnose, en fait. Chose assez surprenante, hein, parce que c'est vraiment l'effet de surprise. Et là, je me suis vu, en fait, à l'extérieur de mon corps. Je me voyais. Mais comme on travaillait, en fait, sur l'enfance et les choses que je portais depuis toujours, je me suis vu comme un landau, mais un landau vide, il n'y a pas de visage. Et j'ai eu déjà une fois cette expérience auparavant qui est juste hallucinante, quelque part, avec une première réintégration du moi. Et dès ce moment-là, ben voilà, il y a eu après la coupure du lien familial qui était destructeur, en particulier avec ma mère. Et ça, c'était une des premières phases. Et effectivement, il y a un peu une similitude avec l'expérience de mort imminente, avec cette dissociation-là et de réintégration.
Parce que ça vous arrivait quand, cette EMI, il y a longtemps?
Ça fait quasiment 6 ans, jour pour jour.
D'accord.
C'était en mai 2015. Donc,
il n'y a pas de hasard.
Non, ça n'existe pas, le hasard.
Mais Jonathan, vous faites de l'hypnose?
Je fais aussi de l'hypnose, oui.
Parce que dans l'hypnose, on est en état dissociatif. Moi, je connais cet état dissociatif parce que je suis rentrée en état d'hypnose. Est-ce que c'est vraiment un état où on peut partir, enfin, on peut être dans une espèce de mort imminente aussi, ou enfin, comme t'expliquais toi, Yvan, de te voir ça. Déjà dans en landau, ou est-ce que c'est vraiment juste une expérience d'hypnose?
Alors, vous savez, l'hypnose, moi, je le vois surtout comme de la suggestion. On essaye d'amener la personne à faire un voyage particulier, mm-hmm. un voyage mental, qu'elle mm-hmm. peut aussi colorer par son imagination. Mm. Mais ce n'est pas tout à fait pareil, je pense, d'une expérience de mort imminente.
Parce que la personne, elle est consciente, en fait, toujours consciente.
Elle est toujours consciente, et même neurologiquement, c'est pas les mêmes, on n'est pas dans les mêmes tracés.
Mm-hmm. On est dans la maîtrise aussi.
Oui, il y a une forme de maîtrise. Oui.
Voilà. Mm. Donc, il ne faut pas avoir peur, pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Non, quand on le vit une fois, on se rend compte qu'on décide de revenir, on revient.
Mm-hmm. Ah oui, pour les sorties de corps.
Pour une sortie de corps, ouais. C'est...
Oui.
Il n'y a aucune peur à avoir de ça, au contraire.
Mm-hmm. D'accord. Alors voilà. Vous, par exemple, quand vous étiez dans l'ambulance, l'infirmière qui vous disait « restez avec nous, restez avec nous », vous vous êtes réveillé dans l'ambulance ou à l'hôpital, ou comment ça s'est passé?
C'était à l'entrée, en fait, j'ai commencé à reprendre conscience à mon arrivée à l'hôpital.
D'accord.
Donc, c'était en dessous de Vevey, que c'est arrivé à Longny, le temps de descendre jusqu'à l'hôpital de Vevey. Mm-hmm. Zéro souvenir. Le seul souvenir que j'ai, c'est de ne plus vraiment être là. De n'entendre que ses voix. Donc, mm-hmm. la durée du trajet, elle était balayée, quelque part, de l'esprit.
D'accord.
Il n'est resté que ce souvenir-là. C'est comme si j'avais volé, en fait, d'un endroit à un autre.
Mmh. Et au moment de vous être réveillé, est-ce que vous aviez ce souvenir d'expérience de mort imminente ou pas encore?
Pas encore.
C'est venu combien de temps après?
C'est venu dans les heures qui ont suivi, parce que droit derrière, ça a été IRM, ça a été... forcément, c'est un petit peu l'état de panique autour de soi.
Oui, la batterie d'examen pour vérifier.
Voilà, donc on est dans un... Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? On se pose plein de questions à ce moment-là.
Et vous aviez pu en parler à quelqu'un à cette période? Enfin, durant ces premiers temps?
Non, pas dans les heures qu'on suivit, non.
Ou les jours d'après?
Il m'a fallu quand même plusieurs semaines.
Plusieurs semaines.
C'était troublé pendant un moment. Ce qui s'était passé, pardon, et le nouveau moi qui était venu là-dedans, en fait. Et ce nouveau moi, en fait, tout d'un coup, a eu ce besoin de comprendre. Et les souvenirs sont revenus. D'un coup, cette histoire est revenue claire dans mon esprit. Mm-hmm. Alors que les jours qui suivaient, c'était un grand brouillon.
Vous étiez un peu dans les choux, quoi.
Oui,
mais peut-être aussi troublé inconsciemment par ce que vous aviez vécu. Et c'est seulement après quelques jours ou quelques semaines, je ne sais pas, que vous avez pu mettre un mot sur ce que vous aviez vécu. Est-ce que quand vous avez l'impression que vous avez un peu, vous auriez un petit peu changé votre manière de voir la vie, ou bien vous avez continué votre petit bonhomme de chemin comme avant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé en vous avec cette expérience?
Tout. Tout a changé. Sens des priorités qui est devenu juste simple et clair. Mm-hmm. On va dire noir-blanc. Ça, je prends, ça, je prends pas. Mm-hmm. Un développement d'amour, d'empathie qui est juste énorme. Que j'avais déjà, mais qui a pris une ampleur considérable, et la perception des autres.
Qu'est-ce qui a changé dans la perception des autres?
Détection de l'aura.
Ah oui.
Très forte. À un moment, c'était même problématique, parce que j'ai une telle sensibilité qu'on devient presque agoraphobe. On ne veut plus voir Dieu. Parce que...
Ressent les émotions ou les douleurs de tout le monde.
Les douleurs, par exemple. Oui. Okay. Puis les émotions, les gens... positifs comme les gens négatifs.
Ouais. Vous êtes hypersensible.
Oui. Mm-hmm. Et d'accord. Puis il a fallu réapprendre à vivre avec ça, par contre. Mm. Mais génial. Parce qu'au final, une fois qu'on a appris à en faire quelque chose, c'est juste que du bonheur.
Oui, oui. Et puis finalement, est-ce que vous avez plus peur de la mort ?
Non.
Vous pensez qu'il y a quelque chose après la mort ?
Ah, aujourd'hui, j'en suis persuadé, effectivement. J'en suis persuadé. C'est une évidence.
En tout cas, c'est être dans la lumière et dans l'amour inconditionnel, sans douleur, tout est léger, tout est beau. Si je résume.
C'est encore plus agréable que de se laisser flotter, posé sur l'eau. Mm-hmm. Parce qu'on n'a même pas cette sensation de l'eau sur son corps, en fait. Ouais. On a vraiment d'être dans les airs.
Ouais.
C'est d'une légèreté d'être froid.
Moi, j'ai une question. Quand vous êtes réveillé à l'hôpital, est-ce que dans cette sensation de mort, vous aviez plus de douleur, tout était léger, tout était beau. Quand vous êtes réveillé à l'hôpital, comment vous avez intégré votre corps ? Comment vous avez apprivoisé ça ? Est-ce que vous sentiez mal ? Vous sentiez un peu à l'étroit ? Est-ce qu'il y avait des douleurs ? C'était insupportable ?
Alors, douleur, non, justement, quasiment disparu. Mm-hmm. C'était vraiment léger par rapport à l'avant. Mm-hmm. Et puis, presque un sentiment d'être étranger à soi-même dans un premier temps.
Ouais. Ouais.
Faut se réapproprier les lieux. c'est comme si vous vivez dans un appartement puis que vous le raménagez complètement. C'est toujours votre appartement.
Le fait de réintégrer votre corps, que votre conscience réintègre votre corps, ça avait... Vous vous sentiez coincé par hasard ou vous étiez bien dans votre corps quand même ?
Il y a eu un petit passage, on va dire, difficile. C'était un peu comme enfiler un habit trop petit.
Voilà, c'est ça.
Et par contre, une fois que j'avais réintégré le corps, non.
D'accord.
Hyper confortable, comme si je portais plus rien.
D'accord.
Et est-ce que vous avez osé, entre guillemets, en parler à vos proches quelques jours après, ou enfin quand vous avez réalisé que finalement, oui, vous aviez probablement vécu une expérience enrichissante, finalement, positive, mais que peut-être les gens ne pourraient pas comprendre. Est-ce que vous en avez parlé autour de vous ?
Oui, mais relativement peu. Mmh. C'est extrêmement difficile de parler à quelqu'un de ça. On peut effleurer le sujet avec un certain nombre de personnes, mais avoir une personne qui est capable de comprendre, c'est très difficile. Et j'ai eu, entre guillemets, la chance d'avoir un ami qui lui aussi avait fait un autre souci cardiaque quelques années plus tôt, où il est parti aussi en urgence, il n'était pas dans le même état, mais il sentait quand même, il se sentait partir. Donc il avait cette ouverture d'esprit pour qu'on puisse parler.
Vous savez, c'est le sentiment de solitude que les personnes expérienceurs comme vous ont après cette expérience de mort imminente. Elle est très commune. La grande majorité de ces personnes se sentent incroyablement seules après avoir vécu ces expériences parce qu'elles ne savent absolument pas à qui en parler.
Ouais,
donc elles, même parfois le personnel soignant se montre distant ou essaye d'ignorer ce qui est dit, ce qui peut provoquer comme une forme de choc post-traumatique. Ça peut marquer les personnes qui les vivent parce qu'elles se sentent ignorées dans dans ce qu'elles ont vécu de très fort. Et c'est vrai que le grand challenge, en fait, après coup, c'est de trouver quelqu'un, une écoute vraiment, en tout cas d'une neutralité bienveillante, qui puisse être là, mais juste pour vous croire. Et c'est vrai que c'est pas si évident.
Oui, parce qu'il y a des personnes qui expliquaient dans le documentaire, justement, que les médecins les diagnostiquaient avec des psychoses ou je ne sais plus trop quelle autre maladie. Et c'est compliqué parce que... Moi, je me posais la question, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas à Genève ou en Suisse, comme vous, qui accompagnent des personnes qui ont vécu ce genre d'expérience ? Pour savoir où se tourner, finalement.
Oui, je remarque qu'en tout cas, au niveau des psychologues, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment développé, malheureusement. Mm-hmm. À mon avis, ça le sera de plus en plus ces prochaines années. Mm-hmm. Il y a certains travaux qui se mettent en place. Au niveau des médecins, alors, ils sont sensibilisés. Par contre... ils ne sont pas forcément sensibilisés sur le fait de comment prendre en charge ces personnes. Par exemple, si tout d'un coup, je reviens d'une NDE et puis qu'il y a un neurologue qui vient auprès de moi pour me dire « Mais vous savez, en fait, vous avez halluciné.
Oui,
c'est absolument pas la bonne approche qu'il faut.
Ben non.
Ce qu'il faut, c'est simplement écouter la personne, accepter ce qu'elle a à dire. On ne demande pas à la croire, on demande simplement à l'écouter. Après, il y a aussi en Suisse les aumôniers, ce qu'on appelle les accompagnants spirituels. Donc, c'est des gens qui sont plus formés en théologie, qui sont plus de formation chrétienne, formation théologique chrétienne, ils peuvent aussi être dans certains hôpitaux pour écouter certaines personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Mais c'est vrai que dans le milieu des psychologues et de la médecine, il n'y a pas encore assez de sensibilisation, oui, malheureusement.
Oui. Peut-être que alors en Amérique, je ne sais pas, il y a plus de sensibilisation parce que
Il y a plus
d'accompagnement à ce niveau-là.
Oui, je crois que les Américains, non, c'est pas que je crois, mais c'est que ils ont toujours un énorme temps d'avance au niveau médical, au niveau psychologique, que sur les Européens. Donc c'est vrai que là-bas, quand on parle de médiumnité ou d'expérience de mort imminente ou de n'importe quel problème spirituel lié à la psychologie, les gens là-bas, ils ont déjà un temps d'avance. Alors que nous, ici en Suisse, même en France, enfin dans les milieux francophones, on a un grand temps de retard, malheureusement.
Mais est-ce que c'est aussi parce que les personnes, justement, n'osent pas en parler et que finalement, il y a tellement peu de personnes qui en parlent qu'il n'y a pas de personnes qui sont formées pour accompagner ces personnes-là ?
Voilà, bah, typiquement, moi, j'ai essayé d'en parler aussi, même avec mon médecin de famille. J'ai vu que c'était extrêmement difficile, en fait. Ouais. Je me suis rendu compte qu'on a affaire à des gens qui sont dans le rationnel complet. Ouais. Symptômes, maladies, médicaments, enfin des raisonnements qui sont schémas. Et là, on est dans un non-schéma, si on veut bien, quelque part, qu'on a de la peine à accepter qu'en fait, aujourd'hui, que c'en est un, ce schéma-là aussi. Seulement, comme il est pas palpable, il est perceptible que par l'expérience vécue.
Alors moi, je suis...
Et là, on est devant un peu une absence de personnes qui peuvent être à l'écoute. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose à développer là.
Alors moi, j'ai remarqué que parmi les professionnels de la santé, mais aussi des psychologues qui sont professeurs, en fait, même à l'université, c'est vrai qu'il y a peut-être une moitié de professionnels de la santé qui sont fermés. Mais il y a une toute autre moitié qui est très ouverte. Elle est très ouverte, mais elle est aussi silencieuse.
Public.
Elle est dans le tabou. Parce que j'ai remarqué malheureusement que je pouvais parler ouvertement de ces sujets quand j'étais à l'université de Genève. Je pouvais parler de ça ouvertement à des professeurs, mais face à face, uniquement entre quatre yeux. Dans des institutions, parler de ceci dans un meeting avec d'autres professionnels, c'est des choses qui ne se font pas. C'est des choses qui se font discrètement entre quatre yeux. Je l'ai remarqué malheureusement avec beaucoup de psychiatres, d'infirmiers, de médecins, de psychologues.
Est-ce que ça amène un peu... mais ils sont fous avec leur discours, là
Non, ils sont très curieux. Ça les intéresse. Ça les intéresse, mais ils n'oseront jamais en parler haut et fort, comme je le fais là, maintenant, à la radio, parce qu'ils auront peur pour leur propre réputation personnelle.
Oui, d'accord.
Ouais. C'est malheureusement cette autocensure qui est dommageable pour la sensibilisation de ce phénomène.
Moi, je propose qu'on fasse une petite pause musicale et puis on se retrouve juste après.
Mais nous, thriller.
I will always be hoping you will always be holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day. You will understand always, always from now until then. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us. Darkness that surrounds us.
l'espoir de la délivrance. Paul McCartney, finalement, c'est une chanson qui n'est pas, qui va pas si mal avec le thème de notre émission ce matin. Donc, on est avec le psychologue, pas docteur, bon voilà, psychologue Jonathan Mathil. Et puis aussi avec Yvan Decarly, Jonathan Mathil, qui est donc spécialisé en énergie, thérapeute spécialisé notamment, entre autres, dans les expériences spirituelles. Et il est le bienvenu, puisqu'on est en train de parler justement de le EMI, expérience de mort imminente. Et puis on a aussi la chance d'avoir, Stéphanie et moi, M. Yvan Decarly, qui lui... a eu cette expérience, donc on appelle ça un expérienceur. Vous êtes un expérienceur, Yvan.
C'est un truc à rajouter dans mon CV. Donc.
Voilà, ouais, c'est ça.
Voilà, voilà.
Mais
voilà.
En quoi?
Donc, oui. C'est un débat très intéressant, puisque oui. La NDE, ça c'est en Near Death Experience, donc en Amérique, a été découverte déjà depuis longtemps. Chez nous, un peu, vous disiez. Je vais vous appeler docteur quand même.
C'était découvert. Enfin, vous savez, je pense que l'étude internationale qui a mis la lumière sur ça, c'est quand même Pin Van Lommel en l'an 2001.
Oui.
Et c'est normalement au niveau international que c'est censé prendre ampleur. Mais c'est vrai qu'on a un temps de retard au niveau culturel, j'ai envie de dire, sur les Américains, parce qu'ici, on a beaucoup de tabous chez les francophones pour en parler ouvertement, malheureusement.
Parce que vous disiez que ça a été découvert déjà en 1849, c'est ça?
Enfin... Alors, il faut savoir que le tout premier témoignage d'expérience de mort imminente, il date déjà depuis l'âge de Platon. Hein.
Ah oui.
Donc ça fait déjà, on est déjà dans l'Antiquité. À l'époque, il y avait une personne qui disait avoir même rencontré, lors de sa sortie de corps, des personnages qui étaient, par exemple, je me souviens qu'elle parlait de le personnage de, enfin, la déesse Hestia, qui était la déesse du foyer. Donc là, on parle vraiment de l'Antiquité grecque, hein, juste pour dire que... Voilà, donc on a des témoignages qui vont depuis très loin, jusqu'à les années 1800, où il y a eu des alpinistes suisses qui ont dit avoir vécu une expérience de mort imminente. Ils étaient une trentaine, pas en même temps, hein, mais ils sont inscrits dans les annales du club alpin suisse.
Oui.
C'était le tout premier répertoire d'expérience de mort imminente. Et après coup, petit à petit, c'est venu aux États-Unis dans les années 70, quand on a développé les appareils pour réanimer les personnes. C'est là qu'on a eu tout un coup encore une autre volée de témoignages d'expérience de mort imminente.
Ah oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça quelque
donc,
part. Ouais.
C'est venu petit à petit.
Et vous, ouais. Yvan, donc, vous avez dit tout à l'heure que grâce à cette expérience, on peut dire, c'était pour vous, c'était positif, c'était pas quelque chose de négatif. Hein. D'ailleurs, pour la plupart des gens, c'est quelque chose de positif. Vous avez un peu changé votre vue sur la fin de vie, quoi.
Ah oui, carrément.
Vous avez plus peur.
Carrément. Non, c'est plus une peur parce que on se rend compte qu'en fait, c'est pas une douleur. La personne qui part, au contraire.
Bon, peut-être qu'avant, la personne avait été dans la douleur quand même, ça peut arriver.
Voilà.
Mais qu'une fois qu'elle se désintègre, enfin qu'elle part de son corps, elle est dans un monde...
On peut parler voilà. d'âme, en fait.
Au moment où il y a dissociation, voilà, on va dire, du corps et de l'âme.
Ouais,
c'est ça. Il y a plus rien de nerveux, il n'y a plus rien de musculaire, il n'y a plus... Donc plus rien ne peut faire mal. C'est un esprit seul qui s'en va. Il n'est plus dans le corps, donc il ne peut plus avoir de connexion de douleur, il ne peut plus avoir de connexion de quoi que ce soit d'autre.
Ah oui, c'est logique.
Il n'y a plus d'enveloppe physique, donc
voilà.
vous partez dans l'atmosphère, on peut dire.
Oui, oui, carrément, on s'envole.
Est-ce que vous croyez que cette notion de mort existe? On parle de mort entre nous, entre êtres humains, mais vous qui avez vécu cette expérience de mort imminente, et puis qui avez... goûter, entre guillemets, cet autre côté. Vous pensez que maintenant, on peut dire que un jour, paf, on meurt, et c'est fini? Ou bien, pour vous, il y a une continuité infinie et éternelle? Comment vous voyez ça?
Alors, moi, je la vois aujourd'hui différemment. Je la vois céleste. Oui, alors, pas du côté religieux. Loin de là, je suis agnostique, donc simple. Mais effectivement, ce voyage vers l'infini, dans les énergies qui nous entourent, où voilà, on a quitté la Terre, effectivement. On quitte la planète, puisqu'on quitte tout ce qu'elle, toutes ses influences. Donc, quelque part, de toute façon, là, on voyage. Et ce voyage, en apesanteur.
Oui, vous coupez le fil complètement.
Qui pour moi est éternel, oui. Alors pour moi,
peut-être
l'interprétation religieuse pour les gens qui sont croyants,
oui.
Effectivement, prendre ça du côté vraiment philosophique, ces écrits.
Et vous pensez, vous pensez qu'on peut rencontrer des gens ailleurs, donc des gens qui sont déjà décédés? Est-ce que vous croyez à ça aussi?
Oui, bien sûr.
Mais il y en a qui le disent, en tout cas, dans les témoignages.
Bien sûr.
Ouais.
Oui, oui.
Parce que vous avez rencontré... c'était un peu flouté, mais il y avait des personnes qui étaient
là. Des entités.
Non, alors je parlais plus d'âmes. Non, je crois que les entités, c'est plus quand elles restent, en fait...
Sur Terre
et qu'elles ont pas, qu'elles sont un peu bloquées, non, c'est ça? Ouais. Ça moi, vous parle pas, non? Enfin moi ça me parle comme ça. Hein.
Oui.
Pour moi les entités c'est plus quelque chose de
qui est bloqué. D'âme.
Ouais, c'est plus l'âme qui. Ouais.
Parce que la voix que vous avez entendue qui vous disait est tes enfants, est-ce que c'était une voix que vous pouviez caractériser comme masculine, féminine, enfin je veux
connu.
Dire.
Connue.
Voilà.
La grande question. Parce que ça, c'est resté un flou dans mon esprit. Mais plus le temps passe, plus j'ai l'impression que c'est moi-même qui me parlais, en réalité.
Mm-hmm.
Mais mon moi vivant qui parlait à celui qui est en train de partir, si on veut.
Voilà. Il y avait comme un double moi.
Voilà, exactement. Il y avait celui qui était encore présent, qui était encore conscient, mm-hmm. et il y a celui qui était en train de perdre complètement conscience qui est
s'envolait.
En train de partir.
Mmh. Ah, c'est intéressant.
Moi, je voulais juste revenir sur quelque chose qu'on a dit tout à l'heure, les gens qui font ces expériences puis qui reviennent dans le corps et puis que ça peut être compliqué. Dans le documentaire qu'il y avait sur Temps Présent, il y a justement Luca qui disait « Moi, j'étais complètement à côté de mon corps, je me sentais complètement à côté de mon corps. » Et en fait, vu que je crois que c'est avec les médecins, il expliquait ça, il voulait leur donner antidépresseurs ou quelque chose de similaire. Et il est allé voir une infirmière magnétiseuse qui, là, justement, je suppose, travaillait sur le corps énergétique, puisqu'il devait être complètement dissocié, à mon avis. Et moi, je me demandais, justement, Yvan, vous aviez fait ça. Et puis, je me disais aussi que ces personnes-là, en fait, les magnétiseurs sont beaucoup plus ouverts. Je dirais, ils sont carrément ouverts à écouter ce genre d'expérience. Pour eux, c'est complètement... C'est complètement ouvert. Il n'y a pas de tabou par rapport à la mort, aux âmes.
Oui, est-ce que vous avez dû aller...
Ça leur parle, quoi, puisqu'ils ressentent les énergies.
Voilà. Est-ce que vous avez dû aller voir quelqu'un? Vous avez éprouvé le besoin, après, de voir quelqu'un, de discuter avec quelqu'un à ce sujet, ou bien non?
Non, en fait, pas. J'ai pris acte et j'ai accepté les choses. Après, où il y a eu une évolution assez forte, elle s'est faite en deux temps. La première, ça a été avec mon ostéopathe, avec qui j'ai eu la discussion, qui lui était quelqu'un de très ouvert. Donc, du coup, on a pu avoir cet échange, j'ai pu valider, en fait.
C'était important pour vous de valider?
Oui et non. J'étais pas en quête de la réponse, quelque part, parce que j'étais persuadé, de toute façon, que la réponse, je l'avais déjà.
Mmh.
Et c'est vrai, je l'avais déjà. Mais comme toute question qui peut se poser, ou tout changement... nécessite à un moment donné que les événements ou une personne... Oui, c'est bien juste, t'as bien vécu ça. C'est normal. Mais c'était pas un besoin du tout. Et après, ça a été intéressant parce que ça s'est repassé aussi avec un magnétiseur, comme quoi.
Mm-hmm.
Et lui, c'était le plus fou parce qu'il m'a dit, mais vous dégagez en tout cas autant, voire plus d'énergie que moi, à ce niveau-là.
Mm-hmm.
Et là, c'est...
Qu'est-ce qui fait qu'on... Enfin, je sais qu'on ne peut pas expliquer tout, mais moi, ça m'intéresse de comprendre comment ça se passe que les gens qui vivent ces expériences reviennent avec des dons. Parfois, ils discutent avec les défunts, ou ils ont des hyper-perceptions.
L'éveil.
Ouais. C'est un état de conscience. Tout à coup, en fait, on enlève un peu toutes ces choses superflues dans notre tête. On est plus dans le cœur et le ressenti.
L'éveil. Ouais. L'éveil de soi.
Ouais. On s'élargit en conscience. Ouais.
Oui, et on sort du modèle sociétal qui nous enferme, qui nous empêche d'être différents, on n'a plus l'habit de mouton.
Oui.
On devient de berger.
Moi, je sais pas ce que c'est, de mouton. Oui, je comprends. Ouais.
Mais on rejette un nombre de choses.
Ouais.
C'est incroyable.
Donc, vous êtes dans une autre dimension, donc ça vous paraît presque futile, certaines choses qui vous paraissaient peut-être avant pas aussi futiles. Vous voyez ce que je veux dire? Vous relativisez.
Mais aujourd'hui, je sais que je ne viens pas de cette planète, je n'y vis J'y suis d'une certaine manière, mais je n'y vis pas comme la grande majorité des gens. Mmh. Et j'ai la chance d'être en relation avec quelqu'un qui a exactement le même ressenti.
Vous auriez pu peut-être.
On est d'ailleurs.
Ben, moi, je comprends. Moi, ça me parle aussi.
Mais vous auriez pu alors peut-être créer une association de gens. Vous voyez, il y a peut-être certaines personnes qui ont vécu ce genre de situation et qui ont décidé alors de réunir les personnes. Je sais que c'est difficile, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de parler de ça. Parce qu'ils ont peur qu'on les prenne pour des fous, mais oui.
Oui. Ben en fait, il existe déjà des associations de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Il y a IANS. Je pourrais plus vous dire vraiment qu'est-ce que ça signifie, mais c'est une association qui regroupe.
Ici en Suisse romande.
C'est plus en Suisse alémanique, malheureusement. En France, il existe IANS. Ici en Suisse, je sais qu'il existe l'Institut suisse des sciences noétiques, qui regroupe, qui font parfois des groupes de parole. Moi aussi, je fais parfois des groupes de parole dans
j'ai vu sur Facebook.
Ouais. Voilà, j'en organise dans mon cabinet. Et c'est très important, vous savez, pour les expérienceurs, de se retrouver pour pouvoir partager déjà entre eux, de se comprendre. Des fois même le fait de ne pas se parler, mais de se reconnaître, se voir, et se dire qu'on n'est pas seul, c'est déjà énorme.
Et Yvan, vous n'avez pas eu ce sentiment-là, de retrouver peut-être des gens qui, comme vous, avaient vécu une expérience?
Oui. Alors l'histoire de vie ces dernières années a fait que c'était pas possible de mettre ça en place, mais ça reste un objectif. Quelque chose à faire, peut-être l'occasion se présente aujourd'hui, parce qu'il y a le déclenchement qui se fait là maintenant, entre personnes. On se met en relation avec des gens qui sont intéressés par la chose.
Bah oui.
Donc le cercle, il va se créer, alors que jusqu'à maintenant, ce moment n'était pas arrivé. Donc prends les choses à bras-le-corps, mais je vais faire quoi?
Oui, comment?
J'arrive comme sculpteur sur nuage, quelque part dans l'esprit des gens. Enfin, la crédibilité, elle est où? Et
bien sûr.
Alors que si on se réunit à quelques personnes, l'énergie est là.
Bien sûr.
Donc ça doit.
Vous savez, vous avez la chance d'avoir très bien intégré votre expérience de mort imminente. Vous le vivez bien. Enfin, vous avez traversé peut-être une période où c'était pas évident, mais vous la vivez bien maintenant, et tant mieux. Mais c'est pas général pour tout le monde, pour toute la population expérienceur. Il y en a plein qui le vivent et qui après coup développe ce qu'on appelle une crise spirituelle, qui sont en état d'urgence spirituelle dans laquelle ils ne savent plus qui ils sont.
Ils regrettent peut-être même d'être venus.
Oui, ils ont cette nostalgie de là-bas et d'être venus ici sur Terre, avec toutes ces souffrances qu'ils peuvent connaître. Mais ils ont aussi leurs valeurs qui ont changé de manière si abrupte, leurs objectifs de vie. Il peut y avoir leurs croyances et leurs perceptions peuvent changer. Plein de gens reviennent avec des dons qu'elles n'auraient pas voulu avoir, qui leur font peur. Ouais. La moitié des personnes qui reviennent après une NDE disent avoir développé des perceptions médiumniques.
Voilà, comme Yvan, c'est ce que vous disiez, vous étiez hypersensible, c'est ça?
Oui, et développer du magnétisme aussi. Ouais. Mais pour revenir juste sur l'acceptation, en fait, moi je l'ai pris comme une seconde naissance. Donc je suis dans ma deuxième vie. Il y a une première naissance qui était celle qui s'est faite avec ma mère, et c'était ma naissance du moi, intégralement à ce moment-là. Et quand on arrive à accepter ça, je pense qu'effectivement les questions ne se posent plus. Ça devient juste évidence.
Oui, ça revient fréquemment. C'est des personnes comme vous qui disent voilà, c'était la fin d'une vie et le début d'une autre, avec une autre personnalité. On est toujours, bien sûr, on a toujours la même identité, mais on est une autre personne,
une autre
avec
perception.
D'autres valeurs, d'autres perceptions. Et tout recommence. Et ce qui peut être assez perturbant, c'est pour son entourage proche, sa femme, ses amis, qui tout d'un coup voient leur mari, leur papa, leur maman changer complètement. Oui. Ils ont par exemple un job de, je sais pas, banquier. Ils arrêtent tout pour faire jardinier, pour faire fermier.
Au niveau financier,
il y a un tel changement de valeur que des fois il faut encore expliquer cette expérience de mort imminente aux familles pour qu'elles comprennent le changement psychologique qui s'est passé chez leur
membre. C'est comme disait Yvan, en fait. Moi j'ai tout changé parce que j'ai compris mes priorités. Tout à coup, ces personnes se disent par exemple, moi la banque, en fait, j'avais pas du tout envie d'aller là-dedans, puis ça me ressemblait pas, et puis j'ai envie d'aller dans l'amour de la terre ou j'en sais rien. C'est peut-être pour ça que ces personnes se mettent à changer et puis à s'écouter, je dirais même, peut-être.
Oui, à s'écouter.
Vu qu'il y a un éveil de conscience.
Mmh. Évidence.
C'est évident, oui, c'est ça. Voilà, c'est plus son évidence. Et quand tu es dans le ressenti, tu, les choses deviennent évidentes et tu attires ces choses-là à toi aussi.
Voilà, on se pose plus de questions, ouais. En fait. Quand arrivent les choses, on les voit comme des évidences.
Ouais.
Oui. Donc, tout devient simple, d'une certaine façon. Mmh. Et j'imagine que pour la plupart des gens, la difficulté, c'est d'accepter la simplicité. Mmh. Ah. C'est extrêmement difficile. Il suffit de sortir dans la rue, de voir comment fonctionnent les gens.
Oui, ou tout ce qui nous arrive, des trucs tout bêtes, hein, qu'on s'en fait une montagne. Voilà, peut-être que quand on a vécu votre style d'expérience, eh bien, on relativise les choses, on se fait moins de montagnes de choses qui finalement paraissent futiles. Voilà, que c'est pas l'essentiel de la vie, quoi.
Voilà, on rejette beaucoup de choses.
Mais alors justement,
parce qu'on se dit, putain, c'est même pas la peine.
Oui.
Donc, raus.
Oui. Mais est-ce qu'ils comprennent ça? Oui, c'est vrai que ça doit pas être facile parce que. Vous n'êtes plus le même et tout, donc il faut vraiment que vous ayez une bonne compréhension autour de vous. Justement, ça doit être difficile à vivre des fois, non?
Alors, ça modifiait beaucoup de choses. Alors, ça m'a.
Vous faites le tri parmi les.
Oui, c'est ce que j'allais dire, je pense.
C'était un rapprochement avec mes enfants et une relation qui a radicalement changé, mais positivement, juste génial. Par contre, au niveau des amis, des connaissances, il est resté, on va dire, une poignée. Avec une période d'un peu, pas de solitude, mais d'un réseau social assez restreint. Puis subitement, un nouveau réseau social s'est mis en route, tout seul. Et qui a grandi, qui se développe continuellement. Et jusqu'au jour où mes enfants, il y a 2 ou 3 ans en arrière, je ne sais plus, ils me disent, mais papa, est-ce qu'on peut une fois aller quelque part où tu connais personne? Parce qu'on avait beau quitter Genève, aller au Diabo Vert, enfin bref, partout on allait, forcément il y avait quelqu'un. Puis ils étaient là, mais c'est quoi ça? Et aujourd'hui ils se rendent compte qu'eux-mêmes, ils développent ce même type de réseau, que le leur y grandit.
Quel âge ils ont, vos enfants?
Alors ma fille va faire 20 ans, mon fils vient d'avoir 14 ans.
D'accord. Vous l'avez raconté, ce que vous avez vécu?
Oui.
Et eux, qu'est-ce qu'ils en ont pensé?
Alors, ils ont surtout écouté, on n'a pas eu plus d'échanges que ça. Ce qui est ressorti, en fait, malgré tout, au final, après quelques temps, il y a un peu un nouveau papa.
Oui.
Mais encore plus.
Un nouveau papa qui est un peu mieux qu'avant, peut-être?
Ah oui. Parce qu'il est dans une paix. Voilà. Et j'y reste, j'y suis bien. Et du coup, on a une relation qui est complètement, je dirais, horizontale, plutôt qu'une relation verticale, comme souvent les parents avec les enfants. On se parle, malgré tout, depuis tout ce temps-là, de plus ou moins d'adulte à adulte. Et chacun est très responsable et respectueux là-dedans, et ça coule tout seul. Il reste la référence paternelle, bien sûr, mais le dialogue fonctionne ouvert.
C'est presque un bien ce qui vous est arrivé. Alors.
Ah, carrément.
On dirait que c'est un peu une seconde chance, souvent, pour ces personnes-là. C'est aussi, ça leur fait prendre conscience sur ce qu'ils ne veulent plus et sur ce qu'ils veulent.
Voilà. Et moi, je l'ai un petit peu organisé avec mes enfants quand je sentais qu'il y avait un peu des soucis. Le soir, c'était une bougie sur une table, j'éteignais toutes les lumières. On se mettait trop autour de la table, et puis j'organisais ça, les feux de camp.
Excellent.
Et quelqu'un a quelque chose à dire, donc on y va. Juste à la lumière d'une bougie.
Génial.
Et les émotions, les chagrins, les questions, tout y passait.
C'est vrai que c'est assez caractéristique. Les personnes qui vivent une NDE, après, sont beaucoup plus proches de toutes les autres personnes au niveau amour, au niveau altruisme, au niveau empathie. C'est assez flagrant comme nouvelle personnalité qui émerge.
C'est comme s'ils avaient chopé, excusez-moi l'expression, lors de leur expérience, un surplus d'amour presque. Enfin...
Oui, j'allais le dire.
Oui. Alors, on peut même dire aussi que, moi j'aime bien le dire comme ça, on peut développer des dons, des perceptions extrasensorielles, Mais l'amour, tout d'un coup, qui nous anime, après coup, après cette expérience, est aussi une forme de don, peut-être la plus belle.
Oui, bah oui. Mm-hmm.
Carrément. Je confirme.
Alors, sans parler de choses trop personnelles, quelles difficultés vous avez fait face avec des personnes que vous accompagnez, qui ont vécu des expériences comme celle-ci?
Alors, moi, je me souviens quand j'étais... quand je faisais mes premières rencontres avec les personnes NDE, quand j'étais à l'Uni de Genève, je refaisais tous les tests. Et après coup, je passais beaucoup de temps à discuter avec eux, parce que c'était très intéressant. Et je voyais que très souvent, ils développaient des perceptions de type médiumique, un tiers ou la moitié du temps. D'autres fois, c'était des perceptions de guérison, de magnétisme, une facilité pour faire des soins énergétiques. D'autres fois, c'était des personnes qui pouvaient facilement sortir de leur corps, après coup, qui n'étaient pas toujours... Vous savez, c'est des dons qui ne sont pas toujours faciles à accepter. Au début, on se demande si on est fou ou pas. Donc, il y a encore un ton d'adaptation à faire suite à ces expériences de mort imminente.
C'est pas quelque chose qu'on connaît et qu'on vit tous les jours. Donc, c'est aussi un peu déstabilisant, j'imagine.
Il faut s'imaginer, c'est comme si on a un troisième bras qui pousse. Très vite. Okay. Demain, vous aurez un troisième bras, comme ça. Alors, ça fait peur, c'est extrêmement étrange. Et avec le temps, on va s'adapter, ce troisième bras, il pourra faire encore plein d'autres choses.
On doit refaire connaissance avec soi-même, quelque part.
On doit refaire connaissance,
et accepter que celui ou celle d'avant, il n'est plus tout à fait pareil.
C'est pas un peu un deuil aussi, faire un peu un deuil, excuse-moi.
Oui.
Un peu un deuil d'une partie de soi.
Oui. Il y a une partie de soi, parce qu'une partie est partie, ne reviendra plus, parce que des gens n'en veulent plus.
Mais c'est pas tellement un deuil, c'est plutôt
positif. Oui, mais c'est quand même un deuil, quelque part, même si c'est une partie. Enfin, est-ce que c'est comme ça que tu le vois
Puis tout à l'heure, on parlait, d'identité. C'est vrai qu'on garde son identité, parce que, elle est là. Mais par contre, on devient une autre entité, là-dedans.
Oui.
Puisque l'être a changé. Donc...
Je voulais continuer sur ma petite suite. Il y avait aussi des personnes parfois qui disent avoir développé des dons, mais qui ont l'air plutôt pas forcément utiles. Je me souviens d'une personne qui disait avoir développé un don pour sentir au niveau olfactif des choses qu'elle n'est pas censée sentir, mais comme un chien. Oui. Elle sentait l'odeur de l'autre, mais elle sentait aussi, ça pouvait l'aider, si cette personne était bonne ou mauvaise. Mais c'était dans l'odeur que tout ça s'imprégnait.
C'est plutôt désagréable, ça.
Alors, ce n'était pas forcément agréable pour cette personne, oui. D'autres personnes, je me souviens d'une personne qui disait avoir... pouvoir deviner, rien qu'en touchant les gens, comment elles allaient mourir. Et quand il se trouvait que cette personne mourait exactement dans les conditions qu'il avait devinées, elle se sentait plutôt coupable. C'était plus un fardeau.
C'est terrible, ça.
J'en ai vu qu'une comme ça. Mais c'est vrai que quand même, la grande majorité, c'est don de guérison, capacité pour soigner les gens de manière énergétique. Ouais. Et puis, don de médiumnité, c'est les grandes majorités des gens que je vois.
Mais Jonathan, justement, dans votre métier de psychologue, est-ce que vous avez vu plus de femmes ou même des enfants qui ont vécu ce genre d'expérience ou pas?
Alors, j'ai rencontré que des adultes, mais qui parfois avaient vécu cette expérience en étant enfants. Il faut savoir que les enfants, ils ont plus de possibilités... Enfin, chez les survivants d'arrêt cardiaque, pour être clair, les enfants ont plus de chances de vivre une expérience de mort imminente que les adultes. Ensuite, même les survivants d'arrêt cardiaque de plus de 60 ans, d'après ce qui est noté, elles n'ont pas d'expérience de mort imminente. Maintenant, pourquoi les enfants ont plus de facilité, en tout cas, à se rappeler de l'expérience de mort imminente ou de la vivre? Moi, je pense qu'en fait, tout le monde vit une expérience de mort imminente, mais après, il faut encore s'en rappeler, avoir cette capacité. Et je pense que la fraîcheur du cerveau,
soit
des enfants, des jeunes, ils ont un cerveau beaucoup plus frais pour se souvenir de l'expérience qui a été vécue de l'autre côté. Par exemple, vous, il vous a fallu un certain nombre de jours avant de vous rappeler. Les enfants, c'est beaucoup plus soudain, ils se souviennent beaucoup plus vite. Après, bien sûr, il y a toute la difficulté de pouvoir en parler aux parents. Les parents, ils vont se dire, mais arrête de mentir, tais-toi, arrête de faire ton intéressant. Et ça, c'est des attitudes à ne surtout pas avoir. Et bien au contraire, il faut accueillir le témoignage. Sinon, ça peut laisser des traumatismes chez l'enfant. Hein. Vous savez, pour faire juste une petite comparaison, c'est comme une femme qui se fait violer et qui va encore dire à la police « on m'a violée » et la police ne veut pas l'écouter. C'est un traumatisme en plus. Voilà, juste pour expliquer.
Moi, je voulais juste revenir sur un point. Parce que j'ai vu que tout à l'heure on disait, mais comment on sait si on a vécu une expérience de mort imminente? Vous dites qu'on en fait souvent. J'ai vu qu'il y avait un test en fait.
Oui.
Il y a un test.
Avec des questions.
Avec des questions. Alors moi j'ai juste noté deux questions. Vous êtes-vous senti entouré par une lumière? Et puis aussi, est-ce que vous avez vu des scènes de votre passé défiler? Alors, il y a plein de questions comme ça, et puis il faut avoir au minimum, je crois, un score de 7 sur 32 pour confirmer que c'est une EMI.
Oui, oui, en effet.
Alors, il vient d'où ce test?
C'est le test de Gresson qui a été fait en 1983. Alors, ça reste depuis un moment le test de référence pour vraiment dire oui, une personne a vécu une NDE. 7 points, c'est le nombre minimum. Le nombre maximum, c'est 32. Vu qu'il y a 16 questions avec 0, 1 ou 2 points. Et plus on monte dans ce score, plus l'intensité de l'expérience de mort imminente, ben, elle était intense. Vous savez, c'est un test qui vient d'un autre test auparavant, qui était l'échelle de Ring, c'est un peu technique. Mais en fait, c'est tout. Il a été fait de la manière suivante. On a compilé toutes les expériences de mort imminente. On a vu quelles étaient les caractéristiques générales. On a vu qu'il y avait 4 composantes principales dans ces expériences de mort imminente. Il y avait la composante cognitive, le fait de, par exemple, avoir une notion de tout savoir quand on est, par exemple, béni dans cette lumière. Il y a une composante qui est affective, qui est la plus souvent émise. C'est quand une personne dit « c'était l'extase, c'était incroyable, c'était un amour pur ». Il y a aussi une composante qu'on dit « paranormale », enfin, j'aime pas trop ce mot. Et il y a encore une composante qu'on dit « transcendantale », c'est toute... c'est tous les contenus où la personne dit « j'ai eu cette sensation de sortir de mon corps, j'ai eu la sensation de parler de manière télépathique à un autre être ». Voilà, donc c'est un peu technique, c'est de la psychométrie, mais tout a été fait de manière à ce que ce test soit valide, et c'est vrai, c'est franchement aujourd'hui le test le plus utilisé. Maintenant, je sais qu'il y a d'autres centres de recherche qui développent d'autres tests, heureusement, parce que c'est pas un test qui est parfait. Il ne mesure, par exemple, pas très bien les personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente négatives. Et ça, on en parle un peu moins. Donc, c'est les personnes qui vivent les expériences de mort imminente avec une terreur extrême. Et du coup, elles reviennent de ces expériences en étant complètement apeurées, en ayant même des chocs post-traumatiques.
Oui. Alors, comment on peut vivre des expériences traumatisantes? De ce que je comprends, hein, en sachant qu'on est plutôt bercé dans une lumière, il y a de l'amour inconditionnel, et qu'on est bien.
Alors ça dépend.
Est-ce que les personnes, vous avez rencontré des personnes qui vous ont dit « j'ai vécu une expérience négative » et qu'est-ce qu'elles ont vécu?
Est-ce que c'est des gens qui étaient déjà traumatisés dans leur vie en général, enfin qui avaient déjà des problèmes ou pas?
Alors ce qui a pu être observé jusqu'à maintenant, hein, alors il ne faut pas du tout regarder si les chrétiens, c'est parce qu'on a fait des péchés, qu'on vit une NDE négative. Non, ce n'est pas comme ça. Ce qu'on observe, l'hypothèse, c'est que c'est le sentiment dans lequel on est au moment où on est en train de partir. Si on a un grand sentiment de culpabilité, il y a plus de chances qu'on vive cette expérience de mort imminente de manière négative. J'ai eu, par exemple, le témoignage d'une femme qui disait avoir avorté. Et c'est durant cet avortement, donc ce sentiment de grande culpabilité, qu'elle a vécu cette NDE. Un autre témoignage, c'est une femme qui se faisait violer. Et en fait, elle avait cette notion comme quoi son persécuteur disait « si je fais tout ça, c'est ta faute ». Et du coup, la personne se sentait coupable, alors qu'elle n'était pas du tout coupable au fond, mais elle avait cette notion de culpabilité, et après coup, elle vit une expérience de mort imminente négative. Donc c'est pour ça que c'est très important que, même quand une personne dans les soins palliatifs meurt, c'est important qu'elle meure en ayant des sensations d'avoir une vie complète et où elle ne se sent pas coupable, pour éviter de vivre ces expériences de mort imminente négatives. Ce n'est pas du tout en lien avec des péchés, pas de péchés, non. Je ne crois pas. Et je suis aussi tombé sur des personnes, donc ça c'est un peu plus spécial, mais je suis aussi tombé sur des gens qui étaient directement... qui étaient responsables de certaines morts. Hein. Voilà, elles avaient tué des personnes. C'était une personne en particulier et qui a vécu une expérience de mort imminente positive. Donc, pourquoi? Quel lien? Je ne sais pas.
Oui.
Mais il n'y avait aucune notion de culpabilité chez cette personne. Et du coup, elle a vécu une expérience de mort imminente positive. Alors, vous allez dire qu'il n'y a pas de justice. Je ne sais pas. Mais en tout cas... voilà, si j'ai bien un message à faire passer aujourd'hui, au moment de mourir, c'est important de se sentir bien, de comprendre que sa vie a eu un sens,
voilà.
Et de ne pas se sentir coupable de quoi que ce soit,
d'être entouré.
Pour améliorer ce passage.
Donc vous pensez probablement que, bon, on n'en saura jamais rien, mais que les gens, je dirais peut-être les personnes âgées qui décèdent après une vie bien remplie, est-ce que vous pensez, Jonathan, qu'elles vivent finalement, alors voilà, si elles sont en paix avec elles-mêmes, qu'elles ont été entourées lors de leur décès, donc elles, probablement qu'elles vivent la même chose, sauf que c'est pas une mort imminente, puisque malheureusement elles décèdent, enfin elles partent ailleurs, disons. Donc on peut imaginer que la mort, voilà.
Alors, il faut voir, à mon avis, on peut voir l'expérience de mort imminente comme un passage d'une vie à une autre vie. Mm-hmm. Mais on est vraiment dans la notion de passage. Mm-hmm. Ça, c'est une... ce que je vous dis, ce n'est pas un truc qui est vrai, qui est prouvé, c'est une hypothèse, hein, mais qui a du sens déjà pour beaucoup de gens.
Oui, donc, c'est assez positif, finalement.
Oui, c'est complètement positif.
Mais c'est pour ça qu'après, les gens voient la mort d'une manière différente.
Oui.
Moi, je n'ai pas vécu d'NDE, mais je la vois de cette manière.
Et puis les EMI donc peuvent durer d'après ce que, alors par exemple pour Yvan, ça a duré genre 7 minutes ou enfin 10 minutes quoi, alors qu'il y a des gens, ils restent dans le coma pendant 2 semaines, hein, c'est ça.
Oui. Après, il faut voir aussi comment était le cerveau, s'il était bien oxygéné ou pas. Vous savez, on entend aussi parler de gens qui ont vécu des expériences de mort imminente alors qu'elles étaient déclarées en mort clinique. C'est des choses qui sont assez fréquentes. Ça veut dire que leur cerveau n'avait pas d'oxygène durant plus de 5 minutes. C'est très étrange. Vous savez, même le débat de qu'est-ce que la mort clinique, c'est même un débat que les médecins ont entre eux. Ils ne savent pas définir où est-ce qu'on est mort et où est-ce qu'on est vivant. On a des critères, mais ils sont flous.
En général, quand on est mort, c'est que le cœur ne bat plus. Le pouls n'est plus là.
Alors aujourd'hui, on en est au point à dire, à l'époque, on disait, il ne respire plus, il est mort. Après, on était à une époque où on disait, le cœur ne bat plus pendant un certain temps, donc il est mort. Je crois qu'on est toujours un peu là. Et il y a d'autres personnes qui disent, le cerveau n'a plus d'activité électrique, donc il est en mort cérébrale.
Il a la mort cérébrale.
Il est mort. Je pense que la mort cérébrale, aujourd'hui, c'est un excellent critère qui montre que... voilà, on ne peut pas revenir après dans le monde des vivants. Si vous
Mais moi, je vais juste faire un petit détail là-dessus. Je ne me souviens plus du nom, mais c'était un Américain, je crois, qui a écrit un livre où il est resté 3 mois dans le coma.
Alexander, le neurologue,
oui, neurochirurgien. C'était, c'était ça. Je ne me rappelle plus bien l'histoire, mais c'était très intéressant.
Ben Alexander.
Voilà, et en fait, il explique tout. Bah, il entend tout. Il entend tout ce que ses enfants lui disent, sa femme lui dit. Et ils ne savent pas pourquoi, tout à coup, du jour au lendemain, pouf, il se réveille.
Oui, j'ai malheureusement pas lu son livre, mais je sais qu'il est très,
super,
très connu.
Moi, je l'ai lu en 2 jours. C'est vraiment c'est un livre de poche, mais on le finir. Et il raconte son expérience.
Oui, tu as raison, Stéphanie. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont...
Et c'est un docteur, en plus. Donc,
ils sont inconscients, mais qu'ils entendent. Ils entendent exactement.
Bien
donc,
sûr.
Faut faire très attention quand on est avec des gens qu'on a l'impression qu'ils
sont... Il raconte son histoire et c'est assez fou.
Voilà, mais en fait, ils sont là. Il faut faire attention à... vous avez entendu, Yvan, vous avez entendu aussi. Hein.
Oui, j'entendais ce qui se passait autour de moi, en fait.
Ouais.
C'est le seul sens qui fonctionnait encore, en réalité. On a l'impression que tous les autres sont arrêtés.
Mais vous ne pouviez pas vous exprimer.
Je ne pouvais ni bouger, ni m'exprimer, ni quoi que ce soit. Mais par contre, les voix étaient totalement perceptibles et claires. Il y a eu ce moment de l'incident cardiaque où là, tout était brouillon. Mais ensuite de ça, les voix étaient très claires. Parce que j'entends encore cette infirmière dans ma tête aujourd'hui. C'est comme un petit bout de bande-son qui est enregistré, c'est encore net.
Est-ce qu'il arrive parfois que lorsque vous dormez, ou bien dans la vie en général, vous avez des sortes de flashbacks, vous revoyez, vous ressentez ce qui a été vécu lors de l'expérience de mort imminente ?
Assez fréquemment même, en dormant.
Oui.
Ça peut arriver. Au moment de se laisser partir dans le sommeil, où il y a un peu un état similaire, qui rappelle ça, mais que je vis très très bien, puisque en fait...
Oui, on le vit très bien.
Il est tellement agréable.
Voilà. on appelle ça une sorte de symptôme, mais bon, c'est une maladie, mais c'est une sorte de caractéristique intrusive, c'est qu'on revit son expérience de mort imminente par des flashbacks. Soit pendant le sommeil, soit pendant n'importe quand dans la vie en général, c'est que tout d'un coup, paf, on a ce flash de lumière qui revient dans lequel on était baigné, ou bien cette sensation de bien-être extrême. C'est assez intéressant. Et malheureusement, c'est aussi le cas pour les personnes qui ont vécu des NDE négatives, donc elles revivent tout d'un coup pendant un instant cette terreur horrible. Voilà, donc c'est aussi
une statistique, excusez-moi Jonathan, si on fait une statistique, il y a quand même plus d'un NDE, enfin EMI positif que négatif.
Alors 10% des expérienceurs sont des EMI négatives et 90% sont des EMI positives. D'accord. Voilà, ça c'est les dernières études qui sont sorties.
D'accord. Donc, moralité, il ne faut pas faire des choses mauvaises. Il faut être très gentil dans sa vie actuelle pour être sûr que le jour où si on en a une, eh ben, que ça se passe bien. Quoi.
Ouais, ou alors tu peux pratiquer le pardon de soi et le pardon, demander pardon aux autres, je ne sais pas.
Je pense ne pas partir en paix, c'est le meilleur des critères. Exactement. Partir en ayant cette sensation d'avoir accompli sa vie et de ne pas être dans une culpabilité de quelque chose qu'on n'a pas fait ou bien qu'on aurait dû faire. Voilà.
D'accord, ben ça va être un peu les derniers mots de cette émission qui était très très intéressante. Stéphanie, tu as encore une question ?
Ah ben moi ça n'a rien à voir, mais oui j'ai quand même une question. J'en parlais tout à l'heure avec Jonathan, c'était qu'est-ce que le syndrome physio-kundalini ? Parce que c'était noté sur votre site internet et j'avais envie de savoir. Ah oui, parce que je vous ai demandé si vous avez fait une expérience d'NDE, vous m'avez dit non, mais vous m'avez dit j'ai fait une expérience de physio-kundalini. Alors j'ai dit, mais c'est quoi ?
Voilà. J'ai fait une expérience il y a quelques années, en 2009, hein, une expérience qu'on appelle éveil de kundalini. C'est pas quelque chose qui est très connu en Occident, mais par contre c'est très très populaire et très connu dans les pays orientaux. Ça se réfère en fait à une énergie qui est logée à la base de la colonne vertébrale, dans l'os sacrum, et quand cette énergie s'ouvre,
se développe,
elle monte le long de la colonne vertébrale au niveau des chakras principaux, des 7 chakras principaux. C'est comme si elle les allumait, les dynamisait, au point de développer certaines perceptions extrasensorielles, de provoquer des états modifiés de conscience.
Mais pour ça, il faut être en méditation. J'imagine que ça n'arrive pas quand vous prenez le bus, là, tout d'un coup.
Alors, ça peut arriver soit par des questionnements spirituels intenses, ça peut arriver par le fait d'avoir rencontré un magnétiseur ou un énergie-thérapeute qui vous transmet une énergie énorme et qui vous débloque cette énergie au niveau du sacrum. Donc c'est un éveil spirituel, c'est un éveil qu'il faut encore gérer sur le moment, parce qu'il peut être aussi très mal vécu. Il peut être aussi vécu lors d'une séance de yoga. D'ailleurs, c'est un des buts du yoga, en fait. C'est de réveiller cette énergie qui est logée à la base de la colonne vertébrale. Et voilà, c'est pas un... Donc, on a parlé de syndrome physio-kundalini, donc on peut passer par une phase de crise existentielle, une crise identitaire, parce que tout d'un coup, exactement comme les expériences de mort imminente, on se découvre un autre soi. On découvre qu'on a de nouvelles perceptions qui sont arrivées, des dons de guérison, des dons de médiumnité, par exemple, et il faut, après coup, encore s'adapter à toutes ces perceptions.
Gérer.
C'est pas évident. Sinon, on voulait un petit peu savoir comment on peut vous contacter.
Oui.
Vous avez un groupe de parole. Et puis, je sais que vous avez un événement aussi, si je ne me trompe pas, le 30 mai.
Alors oui, c'est demain. Voilà. Non, demain. C'est dimanche, pardon.
Dimanche. Donc,
dimanche, à Carouge, avec Déclic. Et si, c'est la personne avec qui je collabore, Rebecca. J'organise une journée dans laquelle je vais apprendre aux personnes à se faire des soins énergétiques à eux-mêmes et à ceux qu'ils aiment. Voilà, parce qu'en fait, c'est aussi une perception que tout le monde peut apprendre à faire.
Bien sûr.
Et puis, alors oui, moi, j'ai mon cabinet qui est à Puy. Et j'organise de temps en temps des groupes de parole. J'essaie de le faire une fois par mois. Le prochain aura lieu en présentiel. Et pas par Internet, parce qu'avant, je le faisais par Internet. Il aura lieu en juillet. Il faut aller voir sur mon site Internet.
Vers le 20 juillet, je crois. J'ai vu quelque chose comme ça.
Voilà.
Oui, c'est des personnes, justement, ils se disent, maintenant, tiens, on a quelqu'un avec qui on peut aller discuter. Mm-hmm. Ils peuvent vous contacter.
Voilà. Et ça fait énormément de bien pour ces personnes de se retrouver entre elles, de pouvoir libérer leurs paroles. C'est vraiment aussi un lieu où on peut faire une sorte de coming out, même spirituel. On peut exprimer pour la première fois quelque chose, alors que dans la société, souvent, on ne peut pas le faire.
D'accord.
Et là, voilà, c'est une occasion pour intégrer l'expérience vécue.
On est jugé, on est mal vu. Donc,
voilà.
On vous trouve aussi sur les réseaux sociaux, Jonathan, Mathilde ?
Alors oui, j'ai aussi un site, un profil Facebook, avec une page Facebook, un groupe, comment on appelle ça ? Instagram, voilà. Là, je ne peux pas vous dire comme ça les noms.
Non, mais on mettra de toute façon...
Jonathan Mathilde, Mathilde.
Voilà.
Voilà. Et puis, il y a aussi le podcast à la radio.
On mettra le lien.
Les gens peuvent effectivement réécouter. Yvan Descarly, merci d'être venu nous parler de votre expérience assez, assez émouvante.
Ben, et, merci à vous.
Et qui a fait que finalement, vous êtes devenu un autre homme.
Oui, absolument.
Que vous avez, voilà, que tout s'est bien passé finalement, qu'il ne faut pas avoir peur de ça.
Non.
Au contraire.
Au contraire, hein, au contraire.
D'accord. Alors, Jonathan, merci en tout cas d'être venu nous apporter vos lumières là-dessus.
Ah, merci beaucoup à vous de sensibiliser aussi sur, sur ce sujet.
Et puis, puis vous êtes le bienvenu, Jonathan, pour venir nous parler de ce que vous voulez une prochaine fois.
D'accord, je vous remercie, hein, je reviendrai.
Parce que vous avez d'autres cordes à votre arc aussi en tant que thérapeute. Et Stéphanie, merci d'être toujours avec moi pour ces interviews toujours très intéressantes.
Voilà. Mais oui, Dominique, nous sommes une équipe.
Et voilà.
Allez. Merci beaucoup.
Merci, à bientôt.
Merci.
Au revoir. Au revoir.